Excellent réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont et bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On est passé tout près d'une riposte américaine après que l'Iran a abattu un drone au-dessus du détroit d'Ormuz. C'est ce qui ressort ce matin dans les colonnes du New York Times. Nous serons à Washington dès le début de ce journal pour l'analyse de notre correspondant Grégory Phillips.
Pas de fumée blanche hier soir dans le ciel de Bruxelles. Les 28 États membres n'ont pas trouvé d'accord pour désigner le nouveau président de la Commission européenne.
Les trois candidats à donner favoris ont été écartés, nous dira Louise Baudet.
La France se met à nouveau par plusieurs ONG d'arrêter sa politique de complaisance vis-à-vis de l'Arabie Saoudite.
Alors qu'hier, la justice britannique a suspendu l'octroi de nouvelles licences d'exportation d'armes en direction de l'Arabie Saoudite, la France devrait faire de même, selon notamment Nuance White's Watch. Et puis nous irons au salon aéronautique du Bourget, où les industriels misent sur l'électrique pour faire baisser les émissions de CO2 dans les airs. Reportage signé Hakim Kasmi. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Sophie, notre cerveau peut-il se passer de musique? Vous savez qu'on va fêter la musique aujourd'hui, Sophie, on posera la question à Laurent Cohen, il est professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière.
Les vives tensions entre l'Iran et les États-Unis après la destruction d'un drone américain. Les Iraniens affirment que l'engin espion se trouvait bien au-dessus de leur territoire, tandis que le commandement militaire américain affirme que le drone était à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes dans l'espace aérien international. Hier, Donald Trump a parlé d'une très grave erreur de la part de l'Iran et le New York Times affirme ce matin que les États-Unis étaient tout prêts de répliquer et de lancer des frappes militaires contre la République islamique, avant de changer d'avis quasiment à la dernière minute. À Washington, Grégory Phillips.
Toute la journée d'hier, à la Maison-Blanche, les débats ont été très vifs entre d'un côté les partisans d'une opération militaire. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Pompeo, le patron de la diplomatie, et Gina Haspel, la directrice de la CIA. Et de l'autre, des parlementaires républicains et plusieurs généraux du Pentagone qui ont mis en garde contre une escalade qui aurait mis en danger les forces américaines déployées au Moyen-Orient. Le New York Times affirme que Donald Trump a dans un premier temps donné raison au premier camp et qu'il a ordonné des frappes contre des cibles iraniennes, radars et batteries de missiles. Le journal, qui cite des officiels anonymes, explique que les avions américains étaient en l'air quand au dernier moment, à 19h heure de Washington, Trump a renoncé. Les frappes auraient dû avoir lieu, toujours selon le quotidien new-yorkais, aux premières heures de ce vendredi pour minimiser les risques de victimes civiles. La Maison-Blanche chez le Pentagone ne font pour l'instant aucun commentaire et le journal ne sait pas ce qui a mené à ce revirement et pour quelle raison Trump a finalement renoncé.
Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a invité hier au calme toutes les parties. « Je pense qu'on ne gagnera rien par l'escalade, en particulier l'escalade militaire », a déclaré le président français à l'issue de la première journée du Conseil européen, ajoutant que « tout ce qui est en notre pouvoir, nous le mettrons en œuvre afin que les esprits restent au calme et qu'on traite les sujets de fond ». L'Union européenne dans l'impasse à Bruxelles pour désigner le successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Les représentants des 28 États membres étaient réunis donc hier soir et n'ont pas réussi à trancher la délicate question de la répartition des postes clés, en particulier celui du chef de l'exécutif de l'UE. France et Allemagne n'ont pas réussi à s'accorder, les trois favoris sont écartés et le problème du casting reste entier, Louise Baudet.
Ambiance pas vraiment festive hier soir au terme d'un interminable dîner, à une exception près.
J'ai noté avec beaucoup d'amusement qu'il est très difficile de me remplacer.
Jean-Claude Juncker affiche la sérénité du sortant, mais pour les autres, tout reste à faire. Aucun des trois candidats déclarés ne parvient à s'imposer, ni le conservateur Manfred Weber, ni le social-démocrate Franz Timmermans, ni la centriste Margrét Vestager. Les favoris sont sortis, tranché Emmanuel Macron, qui, sans surprise, positive.
Cette étape était nécessaire compte tenu du niveau de crispation qui avait été atteint en raison de cette obsession, en quelque sorte, d'une organisation partidaire qui ne correspondait pas à la réalité démocratique européenne.
Façon de renvoyer le Parlement dans ses 22, lui qui voulait imposer à la tête de la Commission le chef de file du parti arrivé en tête aux élections. Manfred Weber est donc écarté, mais le casse-tête du casting reste entier et les tractations vont continuer la semaine prochaine à Osaka en marge du G20, puis lors d'un nouveau sommet à Bruxelles le 30 juin. Tractations somme toute classiques pour un Allemand, Belge ou Néerlandais Irlandais, familier de la culture parlementaire et des coalitions, mais cuisine politicienne mal vécue en France où le mercato européen ne doit pas trop traîner au risque d'illustrer l'incapacité européenne à trancher.
Louise Baudet, envoyée spéciale à Bruxelles pour France Culture.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. Ils ne sont plus que deux en lice pour la succession de la première ministre Theresa May depuis hier soir.
Au Royaume-Uni, les conservateurs ont voté. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, grand favori des pro-Brexit, affrontera Jeremy Hunt, le chef de la diplomatie britannique. À Londres, les précisions de Marina Daras.
Avec près de 15 ans d'expérience au sein du gouvernement ou dans des rôles affiliés, son CV surpasse de loin celui de son rival. Son bilan au ministère des Affaires étrangères ne pouvait être que plus positif que celui de Johnson qui, lors de son court passage, avait enchaîné les gaffes diplomatiques en tout genre. L'ancien entrepreneur, businessman endurci, se dit dur en affaires et, contrairement à Boris Johnson, veut tenter de renégocier avec l'UE une partie de l'accord de Theresa May. Pour Jeremy Hunt, l'échéance du 31 octobre ne devrait pas être une porte qui se claque, mais une possibilité qu'il ne faut pas oublier.
A wise prime minister makes choices on the basis of the choices that are actually in front of him.
Un premier ministre sage fait des choix en fonction des choix qui se présentent à lui. D'ici le 31 octobre, nous aurons peut-être un parlement qui modifiera la loi d'une manière particulière, une nouvelle commission européenne. Nous aurons peut-être de très bons progrès dans les négociations et nous serons sur le point de signer. J'étais très clair, s'il n'y a aucune chance d'obtenir un accord au parlement le 31 octobre, je serai prêt à partir sans accord. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin de faire ce choix difficile maintenant.
Choice now.
Mais voilà, sa cote de popularité est bien loin derrière celle de Boris Johnson qui, malgré tout, reste le chouchou des conservateurs.
Marina Daras à Londres pour France Culture. Toujours au Royaume-Uni, la justice britannique a suspendu hier l'octroi de nouvelles licences d'exportation d'armes en direction de l'Arabie Saoudite, des armes qui pourraient être utilisées par Riyad au Yémen notamment. Alors qu'hier aussi, le Sénat américain a stoppé un méga contrat d'armement des États-Unis avec l'Arabie Saoudite pour dénoncer les ravages de la guerre au Yémen et l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Dans ce contexte, les regards se tournent aussi vers la France. Plusieurs ONG appellent Paris à arrêter d'être complaisante envers l'Arabie Saoudite, Nathanaël Charbonnier.
Peut-on continuer comme si de rien n'était avec l'Arabie Saoudite ? Non, répondent en chœur de nombreuses ONG. Non, ce n'est plus possible de vendre encore et toujours plus d'armes à un tel régime. Il faut, comme d'autres pays commencent à le faire, revoir notre relation et notre politique. Philippe Bolopion de Human Rights Watch.
Il est clair que la France ne peut plus faire semblant d'ignorer ce qui se passe. La décision par un tribunal britannique de forcer le gouvernement à suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite devrait faire réfléchir Paris, et donc pour la France qui se veut un pays leader sur les questions de droits de l'homme, c'est devenu totalement intenable et inacceptable.
Et que dire de la relation entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien ? On se souvient encore de ce dîner privé en 2018 entre les deux hommes au Louvre, mais aujourd'hui avec les accusations de l'ONU dans l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi, l'heure était une remise en question, estime Antoine Madelin de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le fréquenter, mais je dis qu'il faut le fréquenter comme on fréquente une personne qui est suspectée d'être un criminel. Et donc il faut prendre les mesures appropriées dans un tel contexte. Ce n'est pas un ami.
Le prince héritier ne doit plus être un ami, certes, mais face aux enjeux stratégiques et économiques que représente son pays, il n'est pas dit qu'il devienne forcément infréquentable.
Alors que la situation humanitaire reste extrême au Yémen, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé hier la suspension partielle de son aide alimentaire dans les zones se trouvant sous le contrôle des autorités basées dans la capitale Sahana. L'ONU invoque un risque de détournement de cette aide. Les Houthis contrôlent une bonne partie du nord et l'ouest du pays, ainsi que la capitale. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon plusieurs organisations humanitaires. En Géorgie, 39 policiers et 30 manifestants blessés et hospitalisés hier soir à Tbilissi, alors que plusieurs milliers de personnes ont tenté d'envahir le Parlement géorgien. Ces personnes ont été repoussées par les forces anti-émeutes, notamment avec des gaz lacrymogènes. Cette action a eu lieu alors qu'un député russe était venu s'exprimer l'après-midi devant l'Assemblée géorgienne.
7h09, la suite du journal de Sophie Delpont. Près de 5000 Européens se sont donné rendez-vous dans la région minière de la Ruhr, en Allemagne.
Pour l'essentiel, des jeunes d'une vingtaine d'années, dont plus de 300 Français. Ils exigent la fermeture des mines de charbon, en particulier l'arrêt de l'exploitation du lignite, un charbon de mauvaise qualité, très polluant, encore largement utilisé outre-Rhin et qui fait de l'Allemagne le plus gros émetteur de dioxyde de carbone en Europe et qui empêche le pays de respecter ses engagements pris à Paris lors de la COP21. Le transport aérien aussi est l'un des gros émetteurs de CO2, alors que le trafic devrait doubler d'ici 20 ans, avec un objectif divisé par deux ses émissions d'ici 2050. Alors que le 53e salon aéronautique du Bourget a ouvert au public en France, aujourd'hui jusqu'à dimanche, l'une des grandes thématiques de cette édition, c'est l'environnement. L'aviation, qui représente 2% des émissions de CO2, tente de développer l'électrique, comme vous avez pu le constater, Hakim Kasmi.
Chez Airbus, l'avion électrique est déjà une réalité. Le constructeur développe actuellement des démonstrateurs comme le Havana ou le City Airbus. Ces véhicules électriques volants qui décollent verticalement et qui peuvent transporter de 1 à 5 personnes avec une autonomie de 60 km sont les prémices des futurs taxis volants. Avec un objectif, le gain de temps dans les villes congestionnées à un prix accessible. Glenn Llewellyn, le responsable électrification d'Airbus.
Dans certaines villes, ça prend une heure pour aller entre le centre-ville et l'aéroport. Avec ce type de véhicule, on peut imaginer le même trajet en 15 minutes et avec à peu près le même prix en termes d'argent qu'il faut payer.
Mais l'avenir proche dans l'aviation commerciale, avec de gros appareils type Airbus A320, c'est d'abord l'hybride. Stéphane Cueil, directeur recherche innovation chez le motoriste Safran.
Qu'on espère pour être capable d'aller à un produit, c'est avoir en moyenne 20-25% de gains. Ce qui veut dire sans doute plus sur des missions courtes. On pourrait même être sur des missions très courtes en quasi zéro émission, vraiment très courtes. Et puis sur les missions les plus longues, un gain qui pourrait être de 10-15%. Si on trouve ça, alors là, il y a vraiment un intérêt à avancer. Si nous décollons en tout électrique, avec certains des moteurs, on pourrait avoir un bruit plus faible. Donc, c'est intéressant pour les usages dans les aérodromes. Et puis également des distances de décollage et d'atterrissage plus courtes, qui permet aussi d'ouvrir des terrains qui aujourd'hui ne sont pas utilisables.
L'aviation commerciale, avec des appareils de plus de 150 places, 100% propres et sans émissions de CO2, ne passera pas que par l'électrique. Le poids des batteries et la puissance qu'elles génèrent ne suffiront pas à faire décoller ces avions. Il faudra donc d'autres moyens alternatifs, comme les biocarburants ou l'hydrogène.
Hakim Kasmi. La météo, des orages et de la pluie ce matin du sud-ouest au massif central. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures moyennes ce matin sont comprises entre 17 et 27 degrés. 17 degrés à Lille, 19 à Paris, 22 degrés à Bordeaux, jusqu'à 27 degrés maximum à Marseille.